Bienvenue au Polysécu, épisode pour les PME. Je suis copain d'Emeline.
Et bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Merci, et toi-même?
Très bien aussi, malgré les quelques difficultés que nous avons eues avant de commencer à enregistrer. Aujourd'hui, on va parler des voûtes de mots de passe, gestion des mots de passe en PME. Ça représente certains défis, certains éléments intéressants. Fait que je te laisse amorcer avec ça, justement, parce que je pense qu'on n'a jamais terminé d'en vraiment parler de ces sujets-là.
Tout à fait, surtout avec le beau podcast que vous avez fait dernièrement, ça met la table vraiment comme il faut. Là, j'avais en tête de parler, oui, gestion de mots de passe, mais aussi je voulais partager à nos auditeurs une astuce pour améliorer la sécurité. Il y a peut-être certaines personnes qui sont peut-être encore réticentes ou qui veulent ajouter une couche de protection de plus parce qu'on ne fait peut-être pas à 100% confiance à ces outils-là. Donc, c'est l'optique dans laquelle je vais vouloir aller aujourd'hui. Mais d'abord, je trouvais intéressant de faire un détour par la gestion des mots de passe en entreprise, par la possibilité d'avoir une politique de mots de passe pour venir encadrer tout ça, de parler de plusieurs solutions gratuites versus payantes. C'est toujours le grand débat, la grande question. Donc, c'est vraiment l'idée que j'avais aujourd'hui. Je pose la question aux gens qui nous écoutent, à savoir, est-ce qu'ils ont une politique de mots de passe? Est-ce qu'ils encadrent l'utilisation des mots de passe chez eux à l'interne? Je pense que ça devient super important parce que si les balises, on les a dans notre tête uniquement, il manque quand même quelque chose, et c'est pas aider les équipes à nous aider de faire ça de cette façon-là, donc de mettre en place une politique pour vraiment établir une norme au sein de l'organisation pour la création de mots de passe, la création, mais aussi le maintien de la sécurité de tout ça, de où est-ce qu'on le conserve et tout. Donc j'avais eu quelques pistes de réflexion que je voulais partager et discuter avec toi. Parce qu'on s'entend, hein, un mot de passe qui est mal choisi peut vite entraîner un accès à nos ressources, exploiter nos choses sans autorisation, loi 25, protection des données, incident de confidentialité et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vraiment l'optique que j'avais en tête. En termes de création de mot de passe, le chiffre le plus douloureux que je partage en ce moment, et je sais que je pète une bulle quand je parle du nombre de caractères que devraient contenir nos mots de passe, moi, je parle d'un 16-18 caractères. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette recommandation-là?
C'est valide. C'est dans cette perspective-là, généralement, que je le donne, mais je n'incite pas à la complexité. Je reviens juste sur la longueur parce que la vraie méthode pour rendre ça plus difficile à casser, c'est vraiment la longueur a plus de poids que la complexité du mot de passe. Au mieux, un mot de passe, on va dire simple dans le sens où il n'y a pas de caractères spéciaux, tu n'as pas d'obligation de lettres, des choses comme ça, à un mot de passe de 8 caractères de long avec des complexités, donc des caractères spéciaux, des chiffres, des majuscules, et ainsi de suite à l'intérieur de ceci. Fait que c'est plus avantageux quand on le voit dans un modèle de comment on va casser les mots de passe, qui est généralement dans les vols qu'on retrouve beaucoup, qui sont énormément publicités sur le web, là, qu'on a des voûtes de mots de passe. Ben, pas des voûtes, là, c'est le mauvais terme, mais des sites qui se sont fait voler les mots de passe dans lesquels on utilise pour rentrer sur ces sites-là. Mais dans ces conditions-là, la longueur vient rendre ça beaucoup plus difficile que la complexité dans ça. Fait que, donc, oui, on pète la bulle. Justement, on va parler aussi de la stratégie, c'est des phrases de passe, c'est-à-dire au lieu d'utiliser un mot, on utilise une phrase qu'on tape qui a 16 ou plus caractères de long, qui est tant qu'à moi la meilleure stratégie, ça. Puis tant qu'à ça, mais une phrase, ça commence par une majuscule, ça se termine par un point. Donc, on peut l'aborder dans cette perspective-là et justement, incidemment, rajouter la complexité sans vraiment le vouloir. Ou sans se rajouter la complexité à soi.
Tout à fait. Mais d'un autre côté, il y a une autre recommandation que je fais habituellement. C'est un mot de passe que je suis capable d'expliquer à quelqu'un d'autre en moins de 20 secondes, à ne pas reproduire à la maison, mais admettons qu'on le fasse. C'est pas un bon mot de passe, quelque chose que je peux expliquer rapidement, parce que ça veut dire que c'est rattaché à des choses trop proches de moi, possiblement. Donc, c'est sûr que quand c'est une phrase, ça, elle peut être dite en une fraction de seconde, là, mais il y a quand même cette notion, faut pas que ce soit des choses proches de nous. Donc, tu sais, on dit souvent, pas de date de naissance, pas de nom d'animaux de compagnie, clairement. Ça serait un élément important, selon moi. Qu'est-ce que tu en penses de cette explication-là?
Oui. Absolument. Ça, c'est l'autre facette des attaques qui existent. De parfait que les gens peuvent deviner notre mot de passe et non le casser. Parce que le premier exemple, c'est justement le cassage d'un mot de passe, qui est un processus fastidieux fait par un ordinateur. Dans ce cas-ci, là, on est dans un cas où on devine le mot de passe des gens. Nom des enfants, nom des animaux, les dates de naissance et ainsi de suite. Ce sont des choses que les gens vont tester rapidement. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'attendre que le mot de les mots de passe d'un site deviennent disponibles sur le dark web pour casser le mot de passe, mais vont essayer de façon plus automatique, plus dirigée vers une personne pour casser son, pour deviner son mot de passe à ce moment-ci. C'est fait. Donc, à ce moment-là, c'est l'autre stratégie, justement, pour éviter, là, de tomber dans cette type d'attaque-là. Qui sont deux types d'attaques très valides, là, puis de différentes stratégies. C'est sûr que dans un cas, on va se retrouver avec des attaques étrangères quand on est dans le cassage de mot de passe. Quand on est dans le devinage de mot de passe, on est plus dans des attaques plus locales, de gens qui veulent bénéficier de nos accès ou ils veulent aller voir dans nos, farfouiller dans nos choses de façon non autorisée.
Moi, dernièrement, en formation, on me disait, mais ça existe encore, les attaques par force brute? Je suis comme, ben oui, ça existe encore. Il y a aussi la notion d'avoir des mots de passe différents, donc d'avoir la bonne pratique de ne pas réutiliser nos mots de passe parce qu'une plateforme se fait pirater, c'est même pas de notre faute, ben, c'est l'ensemble des autres plateformes qui réutilisent le même mot de passe qui sont à risque. De ton côté, pour ou contre modifier nos mots de passe à chaque 3 mois ou à chaque 6 mois ou à une certaine fréquence, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Je te partage le mien tout de suite après.
C'est à géométrie variable. Sur des sites externes, généralement, peu ou pas. Modification à des intervalles définis. Parce que c'est du trouble, mais on n'a pas de façon simple de le faire. Donc, on est dans un cas où c'est un chemin de croix. Certaines personnes plus motivées que moi, disons, vont le faire, ce genre de choses-là. Je préférerais utiliser des stratégies d'utilisation de MFA, de deuxième facteur d'authentification, qui vont justement pallier au fait que si un jour mon mot de passe vient fuiter, dans une des fuites qu'on voit régulièrement sur le web, mon MFA va venir intercepter. Et la plupart des sites modernes maintenant vont en plus envoyer une alerte quand quelqu'un essaie de se brancher et échoue avec le MFA ou vont faire ce genre de choses. Fait qu'on a même l'opportunité de voir quand notre compte est essayé par quelqu'un. Donc, à ce moment-là, c'est le temps d'aller changer son mot de passe parce que du moment qu'il vient frapper le MFA, il n'est pas capable de le casser. Ben, on sait qu'il a trouvé d'une façon ou d'une autre le premier mot de passe. Donc, c'est un indicateur de changement. Et je l'utilise plus de cette façon-là. Un peu comme, maintenant, c'est d'ailleurs recommandé quand on a un doute que notre mot de passe est compromis, on le change. Ben, c'est un peu dans cette perspective-là et non sur une date fixe aux 3 mois ou 6 mois ou peu importe la durée qui est en conséquence. Donc, en cas de doute, le faire, mais sinon, pas le faire. Dans mon cas particulier, puisque je vais dans certains événements de sécurité qui sont particulièrement dangereux au niveau des mots de passe, on va nommer le DEFCON par exemple, quand je vais à ces événements-là, il m'arrive régulièrement de rechanger une partie de mes mots de passe, pas tous, sur des sites que j'aurais pu accéder durant cette période-là, dans lesquels je me serais probablement exposé à un risque que je ne suis pas capable de contrôler, que je ne suis pas capable de mesurer l'amplitude des attaques qui peuvent être faites contre mon compte à ce moment-là. Mais c'est vraiment le seul cas particulier. Mais là, à un moment, on vient au fait que j'ai un doute raisonnable. Donc, sur la base du doute, je change mon mot de passe. Mais sinon, je suis plus tranquille que ça.
Merci en tout cas pour le partage. Effectivement, comme tu dis, il y a certaines situations où est-ce que indirectement on se met à risque. Donc, quand j'ai des raisons de croire que mon mot de passe a pu être compromis, quel que soit le doute, aussi minime soit-il, on va le changer. Puis je partage vraiment ton avis par rapport à cet irritant-là que ça peut être de changer un mot de passe à chaque 3 mois. On se donne bonne conscience en disant « Ah, ben on change les mots de passe, ouais, mais sauf que ton mouton 02 devient un mouton 03. » Donc, on s'est juste donné bonne conscience en changeant le mot de passe, mais finalement pour pas plus de sécurité que ça. Il y a des recommandations aussi un peu de base, mais qu'on rappelle jamais trop souvent de pas partager de mot de passe avec personne, que ce soit être traité comme une information sensible. Un mot de passe, ça ne s'inscrit nulle part, idéalement. C'est pas sur un post-it, pas enregistré dans un fichier dans l'ordinateur, idéalement. Surtout un fichier Excel ou ce genre d'éléments-là. Un mot de passe ne devrait pas être envoyé par courriel non plus. Donc là, le seul endroit où possiblement ça pourrait être stocké, c'est possiblement dans un gestionnaire de mot de passe et pas, selon moi, on en avait déjà parlé, dans le navigateur web, donc dans Google Chrome, à éviter d'utiliser cette notion de mémoriser. Et à ce moment-là, si on suspecte quoi que ce soit, c'est vraiment de faire le point avec un superviseur à l'interne, d'en parler et de changer le mot de passe, effectivement, le plus rapidement possible. Donc, c'est important d'avoir une politique dans ce sens-là à l'interne pour dire, bon, ben nous, est-ce que c'est vraiment 16 caractères qu'on veut mettre en place? C'est quoi nos critères de complexité de mot de passe? Est-ce que nous, on décide de le changer à chaque 3 mois ou quand il y a un risque de compromission? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on a abordées à l'instant. Puis, vous avez nos points de vue maintenant pour établir un petit peu plus la direction dans laquelle vous voulez aller. Mais ce serait vraiment, vraiment l'idée au niveau de la gestion en entreprise, en tout cas. Puis si on saute tranquillement dans les gestionnaires de mots de passe, moi, je travaille avec des PME, avec des OBNL. Donc, j'ai une réalité peut-être tout autre que la tienne et ça va être intéressant d'avoir les deux points de vue, le institutionnel versus un petit peu plus petite organisation, en tout cas, parce que ce que je vois des fois, tu sais, on voit l'humain essaye de s'adapter en fonction de la fonctionnalité, en fonction de la sécurité, en fonction du budget. Je parle pour ce que je connais, mais le gestionnaire de mots de passe en entreprise, en PME, est très peu utilisé, de plus en plus, mais très peu. Et même lorsqu'il est utilisé, il n'est pas utilisé de la façon dont on pourrait penser initialement. Parce que il y a deux types de gestionnaire de mots de passe. Il y a le gestionnaire de mots de passe personnel. Il y a le gestionnaire de mots de passe entreprise, il y a le familial aussi entre les deux, mais lui, on va le skipper, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais un gestionnaire de mots de passe personnel et un gestionnaire de mots de passe entreprise, il y a comme des fonctionnalités de plus dans la notion d'entreprise. Il y a toute une console administrateur où je peux voir qui sont mes utilisateurs, je peux révoquer des accès, je peux changer des mots de passe, je peux forcer la personne à changer son mot de passe. Donc, il y a toute une console administrateur qui permet d'avoir une vision globale des mots de passe dans l'organisation. Et au moment où est-ce que j'ai quelqu'un qui quitte, ça devient beaucoup plus facile. Au moment où j'ai quelqu'un qui oublie son mot de passe, parce que ça arrive encore évidemment, ça devient beaucoup plus facile. Mais moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que très peu d'organisations vont opter pour des solutions de gestion de mot de passe payant en entreprise. Ce que je vais voir la plupart du temps, parce que c'est en termes de coût, on s'entend, c'est un $5 par utilisateur par mois à peu près, donc ça peut vite grimper et ça peut vite être hors budget aussi, même si on s'entend que c'est une dépense relativement hyper importante puis qui vient nous enlever de la charge mentale. Gardons en tête, si vous êtes une OBNL, vous nous écoutez, généralement, la plupart des gestionnaires de mots de passe ont des tarifs vraiment préférentiels, moins 50% sur la tarification. Mais donc, ce que je vois, je vais finir avec mon idée et je m'en vais dans tous les sens, mais ce que je vois généralement, c'est donc un seul compte payant, qui n'est pas un compte entreprise, mais un compte personnel payant à $5 par mois à peu près, et qu'ensuite, tous les autres membres de l'équipe autour ont une version gratuite de ce même gestionnaire de mots de passe. Ça vient vraiment limiter les coûts puisqu'il y a qu'un seul compte qui est payant, un seul compte qui n'a pas par contre la console administrateur et tout le plus que ça peut apporter en termes de sécurité et de gestion, mais ce compte payant permet quand même de partager des accès à l'externe, de révoquer les accès s'il y a lieu et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le compromis que je vois, comment je vois nos PME, nos OBNL se sont appropriés ces solutions-là. Qui c'est pas idéal, mais tu sais, quand on regarde notre balance sécurité versus fonctionnalité, ça fait quand même la job et c'est beaucoup plus intéressant et sécuritaire qu'un Google Sheet sur le Drive par exemple ou un fichier Excel, beaucoup plus en tout cas je trouve que c'est quand même une belle alternative, moins que la version vraiment complète payante avec tout ce qui vient avec. De ton côté, plus institutionnel, ou si tu veux même commenter sur ce que je viens de partager, qu'est-ce que tu en penses?
En plus grande entreprise, les pratiques sont pas nécessairement meilleures de toute façon. Fait que dans tous les cas, je pense que ce que tu relates est probablement même mieux que ce que je vois en général. Oui, il faut une voûte centralisée parce qu'en entreprise, que ça, peu importe la taille, on a tous affaire à des mots de passe qu'on doit partager entre plusieurs personnes. Donc, cette espèce de voûte-là devient une nécessité pour réussir à faire ce genre de choses-là. Peu importe la forme qu'on prend ou le service qu'on prend, là, il y en a qui sont sur site, il y en a qui sont infonuagiques, il y en a différentes affaires. Donc, comme tu mentionnes, ceux à 5 $ par mois, par exemple, sont sûrement des services infonuagiques qui sont très pratiques, permettent un certain nombre de fonctionnalités centralisées et ont des avantages vraiment très, très importants à cet usage-là. Puis là, c'est là où peut-être pour les entreprises, la frontière entre les deux, c'est que du moment qu'on donne ces voûtes-là, ça donne quand même l'opportunité aux employés d'avoir une voûte personnelle à travers la voûte corporative ou institutionnelle, ce qui fait qu'à ce moment-là, on est capable de bénéficier des deux. Donc, il y a un coût à ça, c'est pas que les entreprises sont prêtes à le payer. Et encore là, l'autre aspect par rapport à ça, ça devient important, dans quel contexte de menace on se situe. T'sais, si on est une OBNL qui prend des dons de charité, ben la menace à laquelle on fait affaire n'est pas la même que si... Puis on parle de même taille d'entreprise, par exemple, ou d'organisation, qu'on fait des pièces pour l'aérospatiale. Donc, à ce moment-là, nos éléments et donc nécessairement les moyens qu'on met en place sont très différents, même si on a la même taille d'entreprise. Ce n'est pas la taille, mais plus le contexte dans lequel on vit, ou l'entreprise vit, qui va définir la nécessité d'avoir soit la pleine voûte corporative à un modèle hybride comme tu proposes qui permet justement d'atténuer les coûts pour les organisations qui ont peu de moyens pour ce genre de choses-là et qui n'ont pas la nécessité également d'avoir cette grande solution-là magique et qui est vraiment très, très puissante. Et descendre ça comme ça selon le contexte dans lequel on vit. Il existe des solutions comme KeePass, par exemple, qui sont gratuites sur site entièrement, qui permet de partager des voûtes au sens où le fichier est commun, mais le fichier doit être le mot de passe pour accéder au fichier est protégé. Donc, à ce moment-là, on a quand même un compromis qui est mieux qu'un fichier Excel ou un Google Sheet qui permet justement d'arriver à ce genre de stratégie-là qui est pas parfaite, mais déjà mieux que qu'est-ce qu'on peut avoir si on doit mettre ça dans un fichier Excel qui traîne sur le réseau ou qui traîne sur les éléments comme ça.
Oui, non, c'est intéressant de voir. Il y a quand même une panoplie de solutions qui existent. Il faut juste trouver la nôtre, celle qui fit. Et ça, pour ça, il faut essayer. Hein. On ne trouve pas chaussure à notre pied. Je ne sais même pas si c'est la bonne expression parce que je les mélange tout le temps. Mais en tout cas, quelque chose qui fit pour nous, il faut essayer pour valider. Et puis aussi, toujours, d'accompagner les équipes là-dedans. C'est une grosse gestion du changement. Donc, c'est d'être patient, d'être plus dans l'éducation, de ne pas hésiter à faire des guides à l'interne avec plein de captures d'écran pour qu'on puisse s'y référer. Quelle que soit la solution qu'on a en tête. Alors, je veux arriver à... Oui, tu voulais ajouter quelque chose, pardon.
Oui, c'est important la gestion du changement. Puis l'autre élément que tu n'as pas mentionné, c'est expliquer pourquoi on fait l'exercice. Et généralement, ce que je déplore dans la plupart des accompagnements de changement, de gestion du changement, c'est qu'on n'explique jamais le pourquoi ou qui ce qui a initié le changement pour arriver où on est rendu ou le bénéfice qu'on en obtient de ce côté-là. Fait que du moment qu'on comprend le bénéfice d'une gestion de niveau de mot de passe, c'est beaucoup plus facile d'aider les gens à adhérer, à l'utiliser progressivement en plus des captures d'écran et des guides qui vont les aider, qui vont démystifier. Mais il faut quand même cette compréhension-là qui est, à mon avis, manquant dans bien des cas. Là.
Tout à fait. Il faut garder en tête aussi que l'humain, indirectement, puis c'est pas péjoratif ce que je dis, mais l'humain est quand même égocentré. Donc, dans cette explication de pourquoi c'est important, faut pas dire pourquoi c'est important pour l'entreprise. Ça va pas nous parler, nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que membres de l'équipe. Dis-moi à quoi ça va m'être utile pour moi dans ma propre vie. T'sais, what's in it for me? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, concrètement? Donc, être le plus concret possible, de pas hésiter à faire des parallèles avec la vie personnelle des équipes, pour que ce soit le plus concret pour elles, effectivement, à ce stade-ci. La notion que je voulais amener, on vous tease depuis le début en vous parlant d'une astuce, d'une technique pour améliorer la sécurité de notre gestionnaire de mots de passe. Pourquoi je vais dans cette direction-là? Parce que les fuites de données, on en parle dans les médias, c'est pas vraiment rassurant nécessairement. D'un autre côté, vous m'avez déjà entendu, Nicolas Loïc et moi, dire que la sécurité à 100% n'existe pas, donc faut pas mettre ces bisous dans le même panier, non, mais on s'entend qu'avec un gestionnaire de mots de passe, tous nos mots de passe sont quand même à une certaine place. Donc, j'ai trois pistes de réflexion, dont deux, on en a déjà parlé, mais ça vaut toujours la peine de les répéter. Mais une troisième technique que vous avez probablement pas entendu parler jusqu'à maintenant, que moi-même j'ai découvert dernièrement et que je trouve ça quand même intéressant, cette couche de protection supplémentaire. Donc, toute première idée pour renforcer la sécurité de notre gestionnaire de mots de passe, ça prend un mot de passe maître ultra robuste. Donc, c'est évident. Je vois encore des gens utiliser des mots de passe faibles comme mot de passe maître. Et c'est le seul que j'ai à me souvenir. Donc, faisons un effort en termes de longueur, en termes pas nécessairement de complexité comme c'est Nicolas Loïc, mais en termes de longueur principalement, non négociable. Ensuite, ça va être d'activer le double facteur d'authentification. On en a parlé aujourd'hui, on a rappelé l'importance, on en a fait un podcast. Donc, vous allez trouver du contenu par rapport à ça, c'est sûr, au niveau de la bibliothèque de Polysécur. Mais ça, c'est non négociable, double facteur d'authentification, privilégié. La double authentification par application mobile le plus possible. Mais je rentre vraiment dans l'idée que je veux amener, puis je vais vous donner un exemple parce que vite dit de même, sans support visuel, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais c'est une technique qui a été abordée par un YouTuber anglophone, mais américain. Sa chaîne YouTube, le crédit lui revient, donc je veux quand même le mentionner. Il s'appelle Josh et sa chaîne, c'est All Things Secured. Et cette technique, elle consiste à ne pas enregistrer son vrai mot de passe pour vrai dans son gestionnaire de mot de passe. Et il met un bout, mais il y a quelques caractères en arrière qu'il ne met pas dedans, mais que lui ajoute manuellement au moment d'entrer sur la plateforme. Ce serait comme si le fait, il y a 80% de mon mot de passe qui est enregistré, mais il y a un 20% qui reste dans ma tête. Donc, je vous donne un exemple, ça va être un peu plus clair. mon mot de passe sont au complet, admettons. C'est pas mon vrai mot de passe, essayez pas de me hacker, ça marchera pas. Mais admettons un mot de passe, vous savez, tout le monde, pas mal que j'ai un lapin qui s'appelle Rocket. Fait, elle est née en 2014, c'est pas un bon mot de passe parce que c'est beaucoup trop relié à elle. Mais admettons, elle avait un mot de passe sur Fun Bunny, admettons, peu importe, Rocket. Mon mot de passe, c'est Rocket 2014, point d'exclamation, 2O, 2Y, 4P. Parce que Rocket, c'est un lapin, elle est née en 2014, elle a deux oreilles, donc 2O, elle a deux yeux, 2Y, et 4 pattes, 4P. Donc c'est quand même un bon mot de passe, on s'entend, à ne pas réutiliser à la maison, mais il est mémotechnique, il y a 19 caractères, donc c'est quand même un beau mot de passe. Mais la portion de mon mot de passe enregistrée dans mon gestionnaire de mot de passe, admettons, ce serait juste le bout Rocket 2014, point d'exclamation. Le reste, le deux oreilles, deux yeux, 4P, il reste dans ma tête. Je le tape au clavier au moment où je me connecte sur la plateforme. Donc c'est comme un code unique que je suis la seule personne à connaître théoriquement et que je mets à la fin de chacun de mes mots de passe. Donc même si quelqu'un accède à mon gestionnaire de mots de passe de façon non autorisée, il dispose pas du mot de passe au complet. Il sera bloqué, il pourra pas avoir accès à mes différents comptes en ligne parce que ce qui est enregistré dans le mot de passe, c'est incomplet, donc c'est invalide. Donc je trouve, tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve que c'est quand même une technique intéressante parce que je bénéficie des avantages du gestionnaire de mots de passe sans les risques de mettre justement tous mes œufs dans le même panier. Et ce que j'aime de cette stratégie, c'est que notre mot de passe, il est entier, il est jamais stocké nulle part. Et ça me permet quand même d'avoir des mots de passe uniques, des mots de passe forts. Donc là, j'ai donné la notion de Rocket 2014, mais ça pourrait être un mot de passe généré aléatoirement par mon gestionnaire de mots de passe. Puis j'ai quand même mon petit NIP, mon petit code en arrière. Qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion?
Ah, c'est une stratégie qui ressemble au deuxième facteur, c'est-à-dire quelque chose que je possède qui est la voûte de mot de passe, c'est quelque chose que je connais qui est le mot de passe, l'extension du mot de passe ou le NIP, comment tu l'as nommé, qui se rajoute par-dessus. C'est une stratégie dans une mesure où on n'a pas nécessairement entièrement confiance à la voûte de mot de passe. Dans le cas de la débâcle de LastPass, beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui ont eu cette inquiétude-là sur la façon que c'est fait. Puis pour la part des gens, même si c'est pour moi clair que la plupart des autres voûtes n'ont pas les défauts de conception de LastPass, c'est très difficile pour les personnes qui sont hors du domaine d'évaluer si le gestionnaire de mot de passe qu'on utilise est réellement bien conçu ou pas. Donc, puis c'est là où, en termes de cyber, on a de la difficulté à communiquer correctement les éléments, mais ça, on se garde ça pour une autre fois. Il demeure que si on n'a pas entièrement confiance, et c'est important, c'est d'avoir la confiance. Si on a un moyen qui est neutre, qui nous rajoute une confiance supplémentaire, qui nous permet d'aller plus loin, et justement d'être confortable d'utiliser ce genre de produit-là, ben je trouve que c'est très valide puis c'est très intéressant comme approche. Ça peut être même à la limite un NIP de 4 chiffres, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi parce que la façon que les mots de passe sont stockés, si on va voir une attaque de force brute, ben ça va être très très difficile à casser de toute façon. Si on va du côté de deviner, ben oui, effectivement, je serais capable de deviner ton Rocket, mais je serais pas capable de deviner ton NIP qui suit à la fin parce que celui-ci devient d'un point de vue de l'attaquant aléatoire par rapport à l'autre information. Cela étant dit, c'est pas une bonne pratique malgré tout d'utiliser des choses qu'on connaît même si on rajoute le NIP à la fin, mais quand même, ça rajoute une couche de sécurité très intéressante qui se peut nous prémunir contre le fait que notre voûte de mot de passe puisse être compromise.
Tout à fait, tu fais bien de remettre un petit coup sur pas des choses de nos vies perso, s'il vous plaît. Et puis, évidemment, tu sais, on le disait encore une fois, la sécurité à 100% n'existe pas. Donc, si je me fais pirater deux de mes mots de passe, de façon, exemple, je sais pas moi, Facebook se fait pirater, LinkedIn se fait pirater, donc là, c'est le vrai mot de passe pour vrai qui fuite avec mon NIP en arrière. Mais là, à ce moment-là, si le fraudeur a accès à deux de mes mots de passe entre les mains, il va voir qu'il y a comme quelque chose qui finit par la même chose en arrière. T'sais, il va voir qu'il y a un lien, il peut faire le lien, mais là, de se faire pirater deux mots de passe, c'est pas impossible, mais c'est plus une question de probabilité. Donc, la sécurité à 100% n'existe pas, mais on essaie de s'ajouter des petites couches de sécurité sans pour autant augmenter la fonctionnalité et que ce soit... T'sais, on veut que ça reste user-friendly aussi. Souvenez-vous toujours de cet équilibre entre sécurité et fonctionnalité. Donc, c'est vraiment des choix à faire, mais... Je dis pas que c'est à utiliser pour tout, mais admettons pour les plateformes un petit peu plus sensibles, nos comptes de banque et ainsi de suite, ça peut quand même être une belle stratégie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Tu voulais ajouter quelque chose?
Très intéressant. Non, très intéressant. Mais j'allais justement commenter sur le fait que c'était tout ça utile. Ça nous mène ça donne des moyens à des gens qui n'ont pas nécessairement la connaissance technique des outils de se donner une confiance personnelle par rapport à l'usage de ces outils-là, puis c'est parfait comme ça, parce que il faut avoir cette confiance-là. Du moment qu'on n'a plus confiance au système, à ce moment-là, on se retrouve dans un contexte où on dégrade énormément la capacité d'utiliser ces outils-là puis d'aller plus loin. Donc, effectivement, là, on a d'autres soucis. C'est important d'avoir cette de se mettre en confiance en l'usage de ça, parce que sinon c'est pas agréable.
Non, effectivement. Mais un gros merci. Toujours un plaisir de partager le micro avec toi, puis de me laisser cette latitude-là de partager des petites bulles de mon cerveau.
Merci énormément.
Come on.